Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mise à mal. Le romantisme.
Je suis une femme docile.
C'est gardé. C'est l'intro du podcast officiellement. Comme toutes les femmes, c'est ça que la fin de ta phrase, tu voulais dire.
Non, pas du tout.
Si, si. Bonjour, je suis Flo. Bienvenue dans Mise à mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de romantisme. Et le cliché que j'aimerais qu'on mette à mal, c'est que, évidemment, les hommes ne sont pas romantiques et évidemment que les femmes le sont trop. Mais au-delà de ce cliché auquel on s'attend un peu, moi j'aimerais qu'on se défasse du cliché romantisme égale amour ou amour égale romantisme. Et pour ce faire, j'ai deux invités avec moi. Je vais commencer par Marine. Marine, t'es déjà venue dans l'émission. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a encore des choses dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre ?
Je pense que la première fois qu'on me rencontre, on ne s'attend pas à ce que je sois quand même plutôt quelqu'un de réservé et qui manque peut-être un peu de confiance en soi.
C'est vrai, parce que tu es brillante. J'ai lutté contre le mot rayonnante que je déteste, mais c'est le mot qui m'est venu en tête quand même.
Ok.
Et on est aussi avec Ivo, du compte Cœur Nichon. Ivo, est-ce qu'il y a des choses dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre ?
Alors, je pense que la plupart des gens pensent que je suis un mec hyper drôle, hyper ouvert, hyper sociable. Et en fait, c'est un peu une mascarade. Disons que je pense l'être quelque part, mais je suis beaucoup plus mélancolique. Beaucoup plus sensible que ce que je veux bien faire croire. Voilà.
et ça, c'est lié directement à ton compte Instagram qui est Cœur Nichon, sur lequel tu te décris comme auteur et chroniqueur de l'amour, qui pourrait avoir l'air d'une provocation, mais moi que j'ai toujours pris au premier degré, et j'ai l'impression que c'est premier degré.
Alors, j'ai longtemps lutté pour trouver une bio qui me correspondait, j'ai changé 1000 fois, et il y a quelques mois, j'ai trouvé ça juste, c'est simple, hein, auteur et chroniqueur de l'amour. C'est premier degré, c'est très premier degré, parce que je parle beaucoup de sexe sur ce compte, parfois de manière un peu grivoise, beauf, parfois plus drôle, parfois romantique, mais c'est tous les aspects de l'amour pour moi, c'est-à-dire, et on va parler du romantisme aujourd'hui, mais c'est un des aspects pour moi qui est important dans l'amour. Voilà, donc en fait, auteur et chroniqueur de l'amour, c'est vraiment l'amour avec un grand A, quoi. C'est pas une blague, c'est que vraiment j'essaye de m'intéresser à l'amour, quoi, simplement.
Et c'est pour ça que vous êtes tous les deux là aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de clichés à se défaire du romantisme et de l'amour. Et Marine, c'est la troisième émission que tu fais, et en fait, je t'avais invité dans deux émissions sur le sexe, ce qui n'était pas volontaire, mais en plus, t'es la personne, je pense, la plus romantique, entre guillemets. Je fais des air quotes, mais ça se voit pas au podcast. T'es la personne la plus romantique, en tout cas, la plus attachée à l'amour que je connaisse, donc je suis très content de pouvoir en parler enfin avec toi. Et pour ouvrir un peu ce podcast, je voulais vous demander, je vais pas vous demander, je vais faire quelque chose de nouveau.
À poil.
Ah ouais.
On se fout tous à poil. Donc oui, pour ouvrir cet épisode, je voulais faire un truc un peu nouveau, qui est de lire une définition, parce que qu'est-ce qui est plus cliché qu'une définition du Larousse ? Et dans le Larousse, le romantisme est défini comme comportement, caractère de quelqu'un qui se laisse dominer par l'imagination et se passionne pour les entreprises généreuses mais utopiques. Vous, c'est quoi votre définition du romantisme ?
Moi, je dirais que ma définition du romantisme, c'est déjà ne pas avoir peur d'être ridicule, d'exprimer son amour, ses envies et d'être, de faire vivre en fait ses émotions, sans avoir peur d'en faire trop, ni d'être ridicule. C'est vraiment vivre son amour, ses émotions, ses sensations au plus haut point.
C'est intéressant ce que tu dis sur le ridicule, parce que au fond, qu'est-ce qui est jugé ridicule en amour ?
Eh ben, ça va être tout ce qui va être, tu sais, ces canards, niais, etc. Toutes ces petites niaiseries qui, en fait, sont hyper cool. Et tu vois, même, t'as parlé de clichés en parlant de la définition du Larousse. Mais qu'est-ce qu'un cliché aussi ? Je sais que le romantisme dans l'amour, c'est un cliché aussi.
C'est méta.
Mais tout ça pour dire que les clichés, c'est trop bien aussi. Et on peut aussi complètement assumer l'idée du cliché, assumer l'idée du canard, assumer l'idée du niais, tant qu'on y va avec notre propre amour et nos propres émotions. C'est quelque part respecter ce qu'on ressent et les sublimer.
Et sur le cliché, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, mise à mal, il est. Enfin, j'ai parfois aussi, quand on discute, on fait une circonvolution, c'est-à-dire qu'on revient sur notre point de départ, mais on choisit d'embrasser le cliché qu'on a essayé de questionner pendant une heure ou deux heures. Et ça, c'est ok en fait. Et les clichés, des fois, sont là parce que ça fait plaisir. Faire un cadeau spontané, ça fait plaisir. Une déclaration enflammée, ça fait plaisir. Un grand geste, ça fait plaisir. Et on reviendra un peu sur vous, quel geste vous avez fait ou reçu que vous jugez romantique, romantique entre guillemets, parce qu'on l'a pas encore défini selon nos termes. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et toi, Yvo, du coup, c'est quoi ta définition du romantisme ?
Alors, pour préparer l'émission, je suis allé voir un peu sur Google et j'ai trouvé, je me suis dit, mais est-ce que je n'irais pas voir les caractéristiques du mouvement romantique dans la peinture et la littérature ? Parce que ça vient sans doute de là. Et je vous les lis parce que c'est exactement, pour moi, ce qu'est le romantisme en amour aujourd'hui. Et non pas la définition un peu horrible que tu as citée et tout. Pour moi, le romantisme donc, se caractérise, c'est ce qui est écrit, par la dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la raison et la morale. Et en fait, c'est exactement ce qui m'a plu dans cette définition, parce que ça correspond à mon idée de l'amour et du romantisme dans l'amour, c'est se foutre de la raison et de la morale. Et c'est-à-dire que, par rapport à ce qu'a dit Marine sur les choses niaises et tout, moi, le romantisme, je pense qu'il est très, très personnel selon la personne et selon le couple. Il y a des personnes qui adorent les choses niaises. Et ben pour moi, être romantique, c'est lui offrir ça, en sachant qu'il faut que ça lui fasse plaisir, enfin que ça fasse plaisir évidemment à la personne qui les offre aussi. Moi, j'ai été en couple avec des hommes et des femmes qui détestaient ces choses-là, qui détestaient les roses que j'aime trop offrir, qui détestaient les mots, les longues tirades enflammées. Et ben je ne le faisais pas. J'essayais d'être romantique d'une autre manière, en essayant simplement de m'accorder à leurs envies. Toujours le consentement, c'est important.
En gros, ce que tu dis, c'est d'avoir un romantisme personnel déjà de toi, parce que si tu te plies à ce que tu penses que l'autre attend de toi, en fait, t'exprimes pas ton amour, donc tu t'exprimes pas toi, donc en fait, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Si je fais un gros raccourci, c'est quand même ça, faut se respecter d'abord. Si la personne peut pas le recevoir, c'est peut-être que c'est pas quelqu'un pour vous, même si ça fait mal sur le coup de s'en rendre compte. Et il y a aussi... ça, c'est un peu la mode maintenant, mais moi, ça m'a beaucoup aidé de voir qu'il y avait des langages d'amour différents. Et que, par exemple, moi, j'ai compris très récemment que j'étais quelqu'un qui aimait parler. Alors, ça peut être absurde que je m'en rends compte que maintenant, parce que j'ai un podcast. Je fais que parler tout le temps, mais j'exprime mon amour par des grandes déclarations. Et j'ai remarqué que la personne avec qui je suis le fait plutôt par des moments de qualité. Et des fois, on va passer un moment hyper bien, mais qui, moi, va me laisser un peu vide parce qu'on n'aura pas eu une grande discussion. Alors qu'en fait, aujourd'hui, vu que j'ai compris que ça, c'est son mode, que moi, c'est la discussion, je vais complètement me fondre dans son mode et voir ce que ça veut dire pour elle plutôt que de me dire « Ah, je n'ai pas reçu ce que j'attendais ». Marine, je te voyais noter des choses.
Même sans attendre, c'est comment dire, cette réflexion autour des langages de l'amour, je pense qu'on a tous un fonctionnement différent. Et quand on est amoureux et qu'on entre dans une relation avec quelqu'un, c'est hyper intéressant de se poser la question de son fonctionnement. Quel est son logiciel ? Comment est-ce que je peux aller gratifier son logiciel ? Parce que moi, je pense que dans une histoire d'amour, il y a ce grand axe qui est le fait d'admirer, le fait de vouloir faire briller l'autre. Et donc, du coup, je trouve que de s'intéresser à son fonctionnement, c'est un premier pas. Et en effet, comme tu dis, une fois qu'on le comprend, d'une part, on peut aller le valoriser et d'autre part, après, on peut aussi essayer de créer des passerelles entre les deux fonctionnements si ils sont différents.
Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, du fait que la personne en face n'est pas forcément réceptive à ce qu'on est nous et à ce qu'on aime montrer. En fait, je trouve que l'écueil, entre guillemets, des gestes romantiques, c'est aussi que parfois, dans mon cas, j'ai remarqué que ça me faisait peut-être plus plaisir à moi qu'à la personne. Mmh. Et qu'en fait, c'est toujours ce truc aussi un peu comme dans la charité. On offre et puis on se sent peut-être bien parce qu'on a offert. Et il y a ce truc un peu égotique, égocentrique, où moi, en fait, j'essaie de travailler dessus, mais de faire des grands gestes, de faire des grandes preuves d'amour romantique pour me dire « Ah, t'as vu ? J'ai réussi, t'as vu ce que je sais faire, t'as vu comme j'écris bien, t'as vu comme j'ai trouvé le mot juste. » Et parfois, en fait, la personne en face, elle est juste là, mais j'attends pas ça. J'attends juste, effectivement, des moments de qualité. On mate un film, on rigole et c'est tout.
C'est très juste ce que tu dis, Yvo, et je le mets en parallèle à ce que tu disais, Marine, sur le fait que l'amour, c'est faire briller l'autre. Et je pense que c'est une définition sur laquelle on pourrait s'arrêter parce qu'on le prend souvent dans l'autre sens. Et c'est pour ça que moi, je déteste le romantisme, enfin tel qu'il a été marketé et pas tel que tu l'as défini, Yvo, qui est vraiment être en contact avec sa sensibilité et ses émotions. J'ai l'impression que le romantisme, c'est d'abord se mettre en valeur soi comme outil de domination pour dire « Regarde comme c'est impossible que tu ne puisses pas m'aimer tellement je suis fort en amour ». Il y a un peu ce truc-là dans le romantisme et dans les gestes romantiques tels qu'on les a un peu fabriqués aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur la définition du romantisme avant qu'on passe un peu aux gestes romantiques ?
Oui, moi je voulais juste rebondir, Ivo, tu parlais de surprise et la définition du Larousse parlait de générosité et je trouve que ça va vraiment de pair quand on est dans cette attitude de romantisme. On a envie de montrer à l'autre qu'on l'aime, on a envie de lui faire plaisir, de le faire briller, comme je disais tout à l'heure. Et je trouve que ça va clairement être le premier geste qui va amener à des surprises. On peut totalement se balader et avoir une pensée pour l'autre, et puis en fait se dire « Oh, j'ai envie de lui faire plaisir, oh, je vais lui prendre ça ». Et en fait, lui, il va le recevoir comme une surprise, mais je pense que ça émane d'une générosité qui est aussi... un sentiment par excellence de l'amour et des sentiments qu'on ressent pour l'autre quand on est dans une relation.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et par exemple, moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup comme petit geste, c'est quand on m'envoie des photos de quelque chose que la personne a vu dans la rue. Donc elle m'envoie des photos parce qu'elle a une pensée pour moi. Mmh. Ah, regarde, j'ai pensé à toi parce que je suis à tel endroit, parce que je viens de voir tel animal et qu'on en a parlé hier, parce que si, parce que ça. Je trouve ça très beau. Mmh. Et en fait, le romantisme, c'est évidemment, on a cette image du romantisme, voilà, des roses et du chocolat et un resto romantique. Mais c'est pas ça pour moi. Le romantisme, c'est l'attention qu'on accorde au quotidien à la personne, mais une attention évidemment qui est un peu différente d'un quotidien où il se passe rien, c'est-à-dire c'est effectivement ce truc de surprise quoi. D'un coup tu t'y attends pas et tu reçois sur ton téléphone ta musique préférée que l'autre t'a envoyée ou une telle musique qui fait écho à ce que tu ressens, à ce que tu vis, et l'autre s'est dit en l'écoutant, ah ça je vais l'envoyer parce que ça fait écho à la vie de la personne. Je trouve ça très beau moi, les attentions, la générosité comme tu l'as dit Marine.
Ce côté, je trouve, dans ce que vous dites, extrêmement personnel, c'est-à-dire que tu n'aurais pas pu envoyer ça à quelqu'un d'autre. Mmh. Ça, c'est la définition même de l'amour ou du romantisme. Et moi, avant, j'étais dans, donc pendant longtemps, pendant une dizaine d'années, j'ai été dans une forme de réalisme assez dur, genre ça sert à rien de faire des grands gestes, ça sert à rien, genre l'amour c'est au quotidien, c'est du concret, c'est pragmatique et tout. Parce que j'ai été très déçu de ma première expérience d'amour où j'ai hyper idéalisé la personne, au point où j'étais en permanence déçu par elle. J'étais plus amoureux de l'image que j'avais de la personne que d'elle-même. Et après, pendant les 10 ans qui ont suivi, j'ai essayé de contrebalancer cette première expérience en étant très cru, quoi. Et aujourd'hui, je me réapproprie une forme de poésie, de niaiserie, et aujourd'hui, les moments où je suis canard, c'est les moments où je suis le plus sincère et je me dis, je vais plus m'excuser de ça, quoi.
Mais d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ça parce que, moi, je t'ai connu un peu dans différentes facettes et, la première fois où tu m'as parlé de ta relation actuelle, tu me l'as parlé d'une manière très, romantique justement, et je t'ai dit mais t'es complètement canard, parce que ça allait avec l'idée aussi, c'était assez nouveau pour moi de te voir comme ça, et tu m'as juste répondu mais oui je suis carrément canard, et j'ai adoré le fait que tu l'assumes de cette manière, et je me souviens, enfin vraiment ça m'a marqué ce message, et je me suis dit ok, là il est dans le game de l'amour, il a lâché prise dans ses émotions, et ouais ça m'a marqué cette phrase que tu dises ouais je suis complètement canard.
Je pense que le mot-clé est lâché. C'est vraiment ce truc où avant, je voulais lutter pour... Parce que c'est une forme de préservation. J'avais été tellement blessé du romantisme. Et j'étais trop jeune aussi, tu vois. Genre, c'est pas que mon comportement était inadapté. C'est que moi, j'étais juste trop jeune pour comprendre. Et puis aussi pour encaisser la déception de l'amour qui, en fait, arrive aussi. Donc... Et après, j'ai essayé de lutter pour être dans une forme de réalisme bien trop cru pour me préserver de mes émotions que j'arrivais pas à exprimer parce que j'avais l'impression que si je les mettais dehors dans des grands gestes, on allait pouvoir les attaquer et donc m'attaquer moi personnellement, ce qui est faux. Et c'est marrant quand tu dis que tu m'as dit que t'étais canard. L'ancien moi, en fait, aurait dit, enfin, serait énervé. Tu m'as connu une période où j'étais très susceptible et je m'énervais beaucoup. Et aujourd'hui, j'accepte parce que j'ai plus rien à défendre, en fait. Je me sens protégé dans l'amour que je peux offrir. C'est ça la différence.
C'est marrant que vous parliez de ça parce que pour moi, le fait d'assumer d'être canard ou voilà, ça fait partie du romantisme. En tout cas, du romantisme réussi, c'est quand on assume les gestes qu'on fait. Parfois, moi, j'ai eu des grands gestes romantiques et je les assumais. Et c'est passé même si la personne n'était pas très fan, c'est-à-dire qu'elle me le disait un peu plus tard, le lendemain ou la semaine d'après, écoute en fait le gros bouquet de fleurs, en fait j'aime pas les fleurs, et t'es là, ah bon ok, mais la fille me disait, mais quand j'ai vu à quel point t'étais dévouée, t'étais contente de me l'offrir, t'étais dans... Voilà, parce que je la connaissais pas assez que pour savoir qu'elle aimait pas les fleurs, donc je lui en offre. Elle me dit, c'est normal, mais il faut assumer tous ces gestes. Faut pas y aller, voilà, à tâtons, enfin, faut vraiment assumer, quoi. Et donc, c'est ça, assumons le fait qu'on puisse être romantique, qu'on puisse être niais, qu'on puisse aimer les grandes envolées lyriques, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il faut l'assumer.
Ouais, parce que, quelque part, c'est assumer pas tant le geste, mais ce que le geste veut dire, enfin, c'est con à dire, mais que tu offres des fleurs, c'est une métaphore de ce que tu offres dans votre relation. Et justement, en parlant de grands gestes, enfin, vous, c'est quoi le geste romantique le plus fort que vous ayez fait?
Alors moi, c'est marrant parce que vous parlez de grands gestes depuis tout à l'heure, mais moi, les grands gestes ne m'évoquent rien du tout. Pour moi, le romantisme, ça va plutôt être des petits gestes qui veulent rien dire pour les autres et qui veulent tout dire pour les deux personnes concernées. Donc moi, j'ai pas fait de grands gestes. En tout cas, moi, ce qui me vient... En plus, j'arrive même pas à avoir d'exemple de gestes que moi j'ai fait. J'ai en tête des gestes qu'on a fait envers moi qui pour moi étaient la définition même du romantisme. Mais moi, ce que j'ai fait, mon premier copain, on a eu une relation très longue. C'était de mes 14 à mes 21, donc on a clairement grandi ensemble. Et il était en médecine. On était à distance. C'était très dur pour lui, la médecine. En tout cas, les premières années, c'était compliqué. Je lui envoyais une lettre tous les jours. Tous les jours, j'écrivais une lettre et je décorais l'enveloppe. Je décorais l'enveloppe qui reprenait un thème d'une discussion qu'on avait eue au téléphone, ou choses comme ça. Et je laissais un petit mot à l'envers de l'enveloppe pour le facteur, en lui disant « Dépêchez-vous, parce que cette lettre doit arriver à tout prix à temps. » Enfin, vraiment, je laissais des mots au petit facteur.
« Je connais ton boss, dépêche-toi. »
Non, mais c'est vrai qu'il y en avait cette continuité. Et mon attitude romantique envers mon copain à cette époque-là, c'était vraiment de lui montrer que je le soutenais. Et je me souviens même lui avoir fait un livre, pas de grandes prétentions, hein, mais j'avais vraiment tout fait à la main.
Michel Bar Michel, un petit truc.
Non, pas du tout. En fait, j'avais pris la forme, ça, tu vois, je l'assume, hein, mais on revient sur les gestes un peu ridicules. J'avais fait un livre en forme de BN, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup les pubs de BN, distributeurs de sourires. Et du coup, comme lui était dans cette période compliquée, il y avait ses études, il venait de perdre sa maman. Enfin, vraiment, il y avait une période très sombre pour lui. J'avais fait un livre BN et en fait, j'avais fait, je crois, une centaine de pages avec des anecdotes qui font sourire. Notamment, je m'étais renseignée de pourquoi est-ce que les pigeons marchent en dents de l'idant de la tête.
En bouncing.
Et tu vois, c'est une question. Donc en fait, j'ai mis cette anecdote, pourquoi les pigeons font ça? Donc j'explique, et vraiment l'idée c'était qu'à chaque page, ils puissent décrocher un sourire. Et je lui avais envoyé ce distributeur de sourires.
Mais pardon, mais pourquoi c'est ridicule? Genre, quand non. Tu le dis, moi j'ai envie d'être amoureux de toi.
Et surtout, pourquoi tu dis que c'était un petit geste?
Ouais.
C'est un geste incroyable.
Et bah oui, mais voilà. En fait, peut-être que quand je vous entends dire grand geste, j'ai l'impression que ça va être acheter quelque chose d'énorme ou emmener dans un restaurant sublime. Ou... Pour moi, il y a aussi un cliché où... Non, j'aime pas l'utilisation du mot cliché, mais il y a dans l'imaginaire collectif, être romantique, ça peut aussi être traverser un océan. Alors, ce sont des gestes qui sont en effet révélateurs d'un amour fou. Mais c'est vrai que j'associe les gestes romantiques à des gestes beaucoup plus personnels. Donc oui, c'est là où j'ai fait la différence entre petits gestes et grands gestes.
Sur la distinction petits gestes, grands gestes, en fait, je disais grands gestes, et c'est vrai que merci de l'avoir précisé, on peut confondre que grands gestes égale grandiloquence. Grands gestes, moi j'entendais grands gestes dans la puissance que ça signifie. Et en t'entendant parler, je réalise qu'on confond grands gestes avec grands gestes quantifiables. T'as dit faire une grande distance, faire un gros resto, claquer un gros truc.
Ouais.
Et en fait, c'est pas du tout comme ça que je l'entendais, mais c'est comme ça que c'est marketé. Parce que tout est commercial, tout est
complètement.
On peut plus rien dire. L'odeur de l'essence. Et donc du coup c'est la confusion vient de là, alors qu'un petit geste qui ne peut pas avoir de valeur chiffrée en a une émotionnelle inquantifiable, quoi.
Exactement. Et tu vois, moi, le geste, si je devais retenir un seul geste romantique qu'on m'a fait, enfin d'ailleurs on l'a fait à deux, mon premier copain est en médecine comme je le disais tout à l'heure, et sa première garde en tant que médecin, on était tous les deux un peu excités par ce truc, c'était sa première garde. Donc moi, j'avais dit, je t'attends coûte que coûte, peu importe l'heure à laquelle tu rentres, je veux que tu me racontes ta première garde. Évidemment, il est rentré très tard, donc je me suis endormie, j'arrivais plus à tenir. Mais en fait, je voulais pas me coucher comme ça, donc à l'entrée de notre appartement, j'avais mis des petits post-it avec des cœurs. Où le premier post-it, c'était « il faut que tu me réveilles, je veux tout savoir ». Le deuxième post-it, c'était « je t'aime fort, je suis sûre que t'as géré ». Et puis après, plein de cœurs partout. Et en fait, il est rentré, il s'est couché. Donc le lendemain matin, moi, quand je me suis réveillée, lui, il dormait toujours. Donc j'étais trop contente de voir qu'il était avec moi. Mais je suis sortie méticuleusement du lit pour pas le réveiller. Et quand je suis sortie, mes post-it étaient là. Et il avait remis des post-it d'une autre couleur où il répondait à chacun de mes post-it. Et le dernier post-it, c'était un cœur, le mien. Et le sien, c'était « Ton cœur ne doit jamais être éloigné du mien ». Et en fait, ces post-it-là, ça m'a profondément émue et j'en ai fait une tête de lit tellement j'ai aimé ce double message qu'on s'est offert à ce moment-là. Et clairement, c'est un geste à base de post-it. Et ça, c'est le geste en tout cas qui m'a fait le plus résonner d'amour en fait. Et j'ai adoré cette connexion de nos post-it.
Yves, je te voyais noter des choses.
Alors c'est très drôle parce que je rejoins Marine sur certaines choses qu'elle a faites et en fait j'ai plus rien à dire, c'est-à-dire
ah
non, je plaisante, t'inquiète, mais c'est que alors moi le truc des post-it je l'ai fait aussi, c'est-à-dire qu'en fait ça m'arrive très souvent que je sois avec une fille ou un mec de lui laisser un petit post-it sur son portable, de lui laisser un petit post-it dans son sac quand il y a un événement, enfin voilà, c'est effectivement des gestes quotidiens très porteurs de sens. Et qui sont pas des grands gestes, mais qui sont des gestes, voilà, des grands gestes dans la puissance, quoi. Il y a autre chose aussi que j'ai fait et qui est pareil, un petit geste, mais j'étais en couple avec une fille qui allait avoir un examen important à l'époque où elle étudiait. Et j'ai cuisiné un gâteau, son gâteau préféré, je l'ai totalement raté. Hein. Il était vraiment dégueulasse.
C'est encore mieux quand c'est raté, hein. Ça marche mieux.
C'est mignon. Et en fait, je suis allé le déposer, j'ai pris mon petit vélo, je suis allé le déposer devant sa porte. Et j'ai sonné et je suis parti. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de ce romantisme-là, c'était de ne pas la déranger, bien que j'avais très envie de la voir. Mais je savais qu'elle n'avait pas le temps. Et qu'en vrai, elle aurait même peut-être apprécié me voir. Mais c'était une mauvaise idée du fait qu'il fallait vraiment qu'elle étudie. Et voilà, j'ai juste laissé le gâteau devant sa porte. J'ai sonné et je suis parti. Et elle a ouvert la porte, elle a vu ce petit gâteau. J'ai laissé un petit mot « Courage, tu vas y arriver, c'est sûr. Bon appétit », un truc voilà, simple. Et simple, mais efficace, quoi. C'est-à-dire qu'elle était très ému de cette petite attention qui en plus selon elle et donc selon moi était plus forte parce que je ne me suis pas imposé, j'ai essayé de lui faire plaisir et de me faire plaisir évidemment, mais j'ai passé ses priorités avant les miennes, donc ses examens avant moi, tout en lui offrant une petite pause gourmandise, quoi. Voilà.
Et je trouve ça très beau ce que tu as dit de pas s'imposer à l'autre sur la toute fin que tu dis ça m'a fait plaisir à moi aussi et à elle et le gâteau est raté, en plus on s'en fout, tu vois. Mais ce qui est très symbolique dans ce que tu as fait, je trouve, c'est de déposer au milieu. C'est que bon, voilà, la zone de votre relation est un paillasson, c'est ça que je veux dire. Non, mais tu vois, de déposer au milieu, de pas envahir sa sphère ou de pas essayer de l'attirer dans la tienne et de dire regarde comme je suis fort ou je viens chez toi parce que il faut qu'on s'aime fort. Et, en fait, de dire je dépose là et en fait, notre amour fait le reste. Je trouve que c'est hyper symbolique de ce que peut être le romantisme réussi.
Et un dernier geste que j'ai fait romantique au possible, c'est la lettre d'amour, la fameuse lettre d'amour, parce que moi j'adore écrire. Sauf qu'en fait, c'est assez étonnant, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que c'était pas une lettre d'amour, c'était une lettre de rupture. Le garçon m'a quitté, et après qu'il m'ait quitté, j'ai dit « Ok, mais on peut pas se quitter comme ça. » C'est-à-dire, il faut que moi je lui écrive tout ce que je ressens pour lui, mais aussi tout ce qu'il signifie pour moi et pour plein de gens. C'est-à-dire, en fait, c'était pas juste mes ressentis vis-à-vis de sa personne, c'était aussi une lettre romantique dans le sens où je voulais le mettre en avant, même si la fin avait été compliquée, même si on a beaucoup souffert. J'avais besoin qu'il lise des mots qui le caractérisent et qu'il ait confiance en lui grâce à ça. Je voulais l'aider, quoi, toujours. Et en fait, je pense qu'une lettre comme ça, un peu de rupture, où on revient sur justement les choses belles, mais aussi les choses tragiques, en essayant de prendre de la distance, en disant à la personne qu'on l'aime, même si elle nous a fait souffrir, en lui disant qu'on l'aime, même si ça peut pas marcher. En fait, pour moi, le romantisme, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire que il est le premier soir, quand il y a le premier bisou, ça peut être dans un lieu un peu sombre, ça peut être très romantique, mais c'est aussi jalonner la relation de petits gestes, de grands gestes, voilà. Mais c'est aussi à la fin. Finir ça bien avec panache, quoi, ou au moins avec respect et amour, en fait, simplement,
et sincérité. Et on revient sur la définition que tu lisais tout à l'heure, t'es allé jusqu'au bout de tes émotions et de ta vulnérabilité, de ta sensibilité. Et c'est ça où des fois j'ai encore une fois cette haine du romantisme, c'est d'occulter les choses qui ne vont pas. Être romantique de manière juste, c'est aussi aller jusqu'au bout et dire quand on va mal, quand ce que fait résonner l'autre chez nous, et d'assumer aussi ça. Donc là, ce que t'as fait, c'est de juste offrir tes émotions et sans vouloir récupérer quelque chose en plus en retour.
très longtemps, j'ai eu ces sentiments de faire fuir absolument tous les garçons avec qui je pouvais avoir une relation par mon romantisme. Et cette anecdote du petit gâteau, je l'ai fait moi aussi, avec un gars que je voyais depuis un ou deux mois. On se voyait assez régulièrement à titre de 2-3 fois par semaine. Et il y a un week-end où il était assez stressé parce qu'il allait devoir coder tout le week-end pour sortir je ne sais plus quel logiciel pour je ne sais plus quelle marque. Bref, il allait vraiment coder tout le week-end. Et moi, j'étais vraiment en plus pas très loin de son quartier et j'avais envie de lui montrer mon attention et le fait que lui souhaiter bon courage et autrement. Et j'avais été lui acheter un croissant. Et pareil, j'ai laissé en bas de sa porte avec un petit mot sans frapper ni quoi que ce soit. Moi, j'ai vraiment pas frappé. En plus, je me suis dit, il doit être à fond dans son truc. Donc, j'ai laissé le petit croissant avec un petit mot, code bien. Et je crois même que j'avais écrit code bien, mais en 0-1.
En code. Oui. Oh, je fonds, Marine.
Mais oui, mais tu sais que ça, je pense que je l'assumais pas à 100%. Ou en tout cas, j'avais besoin d'avoir une validation de la personne en face de moi qui me dise, oui, c'est adorable. Et je l'ai jamais eu pendant très longtemps. Et ce mec a fui. Totalement fui. Et en fait, moi, c'était terrible parce que ça m'a profondément blessée, parce que j'avais l'impression de laisser une petite part de moi et c'était pas non plus... Et du coup, j'ai tout remis en question. À quel point je fais trop les choses, à quel point je prends trop de place, à quel point les gens ne sont pas capables de réceptionner tout l'amour que j'ai envie de leur donner. Est-ce que du coup, c'est moi le problème? Et cette idée de mon romantisme fait fuir, je l'ai vécu, mais très longtemps, mais vraiment, mais très très longtemps. Et quand je rencontre des gens qui sont prêts à accueillir mon romantisme, forcément, ça me donne des ailes. Mais si je dois être vraiment 100% honnête, je sais que j'ai toujours ce laïus de est-ce que je ne vais pas aller trop loin. Et la deuxième chose que je voulais mentionner, cette idée de lettre d'amour. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, où je me sens très amoureuse et j'ai envie de dire plein de choses. Là, ça fait aussi partie de mes cadeaux de Saint-Valentin, parce que j'adore la Saint-Valentin.
Romantique.
C'est d'écrire une lettre d'amour. Et alors, j'ai vécu une expérience assez particulière. Bah, c'est que j'ai eu du mal à l'écrire, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes celles que j'avais écrites avant, je les avais extrapolées. Et que là, j'avais limite envie juste d'écrire « je t'aime ». Et j'avais le sentiment d'écrire la plus belle lettre d'amour que j'avais jamais écrite, parce que j'avais rien d'autre que ça, et que ça, c'était ressenti d'une manière si intense et si nouvelle pour moi que ça suffisait.
Et sur le fait que ta lettre, là, t'as eu du mal à faire un truc expansif, j'ai l'impression, c'est une impression que j'ai dans ma vie, que plus j'avance, plus je me déleste, plus je m'effeuille, plus je me décharge, et je reviens à une forme de simplicité. Et on revient sur le romantisme, c'est pas tant de la grandiloquence que de la sincérité. Et donc, si t'as juste envie de dire je t'aime et que tout est contenu là-dedans, il y a peut-être que ça à dire. Et je voulais juste revenir sur le fait que t'es écrit en code bien, en code. Moi, je trouve que, alors, on va revenir sur le fait que ça fasse peur et tout, parce que je pense qu'il y a vraiment un problème genré. Mais je voulais souligner que tu as parlé littéralement le langage de la personne à qui tu écris. On peut pas faire plus clair, tu vois, en termes de... Tu as codé pour lui souhaiter bon code. Je trouve ça trop beau. Et du coup, moi, je voudrais parler des garçons qui ont peur, mais peut-être tu avais des choses à ajouter avant.
C'est drôle, c'est que mes amis... Moi, je suis tellement romantique, tellement passionné que mes amis, quand je rencontre quelqu'un, ils me disent « Est-ce que t'es amoureux ?» Ou « Est-ce que t'es amoureux ?» de l'idée d'être amoureux. Mmh. Est-ce que t'es amoureux de la personne ou est-ce que t'es amoureux de l'amour? Est-ce que tu idéalises pas le fait d'être en couple? Est-ce que... Et en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi... et le romantisme, c'est ça. C'est peut-être en fait que je me rends compte que je suis amoureux que quand justement l'autre ne me fait pas de preuve de romantisme. Où je me dis, ah, bah en fait, je pense que je l'aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il m'offre. Mmh. Et donc, moi, j'essaye aussi d'être un peu moins romantique dans mes nouvelles relations au début. Pour ne pas montrer une image de moi qui ne serait pas exacte, enfin, pour ne pas que la personne s'attende à ce que je lui en offre tout le temps. Si la personne m'apprécie les premiers mois sans qu'il y ait pas grand chose, mis à part du sexe, des soirées devant un film et un repas de pâtes, c'est génial. Parce qu'on idéalise beaucoup, je trouve, l'amour.
Je pense pas que ce soit mal pour autant. Moi, j'ai envie aussi d'encourager les gens à être amoureux de l'amour et évidemment, il ne faut pas vivre son histoire tout seul, mais il ne faut pas se brimer. Moi, je pense que j'ai très souvent été amoureuse de l'amour, mais qu'est-ce que c'était bien d'être amoureuse de l'amour sur le moment. Enfin, vraiment, j'étais dans un kiff. Qu'importe ce qu'on pensait de moi ou est-ce que... Parce qu'évidemment, tes amis interrogent ta sincérité, mais après, t'as beaucoup de gens qui essaient toujours de trouver la petite bête, et on la trouve toujours, la petite bête, si on la cherche. Mais du coup, être amoureux de l'amour, j'ai envie de dire, mais oui, il faut foncer aussi, parce que ça vient driver des émotions qui sont positives, et une version aussi de soi qui n'est qu'amour, et je sais pas, je trouve que c'est une dynamique qui reste bien, donc je pense que si les gens... Si on dit de certaines personnes qui sont amoureux de l'amour, bah c'est pas grave. Et puis un jour, ils seront amoureux de l'amour et amoureux de la personne. Et là, ça fera des feux d'artifice. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de honte non plus à être amoureux de l'amour. Il ne faut pas chercher à le soigner. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions à ce sujet-là, en tout cas.
Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais tout jeune dans ma première relation, c'est d'être amoureux de l'amour et d'avoir été déçu de ne pas être amoureux de la personne. Et du coup, après, d'avoir été si brutalement réaliste pour m'assurer que je suis amoureux d'une personne et pas d'une relation, qui faisait que je m'autorisais jamais non plus à monter un petit peu en transcendance, tu vois, de me laisser porter par l'amour aussi. Et je trouve intéressant, moi, je l'ai vécu plusieurs fois, mais c'est la première fois là que je l'accepte. Quand les premiers conflits arrivent dans une relation, tu dis bah c'est foutu en fait, c'est la merde, voilà, en fait je suis pas digne d'amour, c'est la fin. Et là moi je comprends que c'est là-dedans que j'aime vraiment la personne, dans toute sa faillibilité, ça se dit, dans le fait qu'il est faillible ou qu'elle est faillible. C'est aussi ça l'amour, et le romantisme occulte cette partie-là. Et je voulais rebondir sur un truc que t'as dit, Marine, qui est j'avais peur d'être trop romantique, faire des trop grands gestes, que ça fait peur aux garçons. Et je vais être tout à fait honnête, oui, ça fait peur. Enfin, moi, ça m'a fait peur en tant que jeune garçon. Pendant longtemps, pendant une quinzaine d'années, dès qu'une femme faisait des gestes que je trouvais forts, j'étais là genre, ça y est, elle va m'aspirer, me vampiriser, m'absorber, je sais pas quel autre mot on peut utiliser, et je paniquais. Et d'avoir l'impression que parce qu'elle faisait un geste fort ou romantique, elle était en dépendance affective. Il y a vraiment ce raccourci-là dans le cerveau d'un homme, en tout cas du mien. Et à l'inverse, du coup, vu que moi j'étais pétri de ce cliché-là, si je faisais un trop grand geste, ça voulait aussi dire que j'étais dépendant affectivement. Et donc du coup, je luttais contre ça. Alors que là, aujourd'hui, là où j'ai un très beau geste d'amour, bah je pleure. Enfin, vraiment, c'est mon réflexe. Maintenant, je pleure et je suis trop content, quoi. Donc,
mais t'as vraiment lâché, t'as lâché prise de quelque chose. Hein.
Ouais, je sais pas de quoi.
C'est cool.
Là, tes couilles. Je plaisante, hein. hyper machiste. Non, oublie.
Donc voilà, je voulais savoir, Yvou, est-ce que toi, t'as le même cliché, t'as grandi avec le même cliché que ça?
En fait, moi, qui suis bisexuel, c'est assez bizarre. C'est que quand un mec est romantique, je suis là, oh, un mec qui est romantique. Quand une meuf est romantique, à l'époque en tout cas, maintenant je me suis ouvert, mais j'étais là, ah putain, j'ai peur. Qu'est-ce qu'elle me veut? Et donc effectivement, tu parlais tout à l'heure du fait que c'est peut-être un cliché, entre guillemets, genré. C'est parce qu'on s'imagine la fille qui va être romantique et qui du coup va vouloir que ça aille vite, qui va vouloir des enfants, un mariage, une maison, un chien. Et alors qu'un mec, on s'imagine un peu plus réservé sur ses sentiments et tout, d'un coup il s'ouvre à nous. Et je pense que les filles aussi, elles ont ça avec les mecs. C'est-à-dire qu'à mon avis, une fille, en tout cas dans mes amis, quand elle me dit oh, il m'a fait ça, il m'a offert une fleur, il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a fait une preuve de romantisme, et elles sont tout le temps waouh, genre il a ouvert son cœur.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Yvo, c'est qu'il y a quand même ce cliché que les femmes sont en attente de quelque chose et que les hommes sont aussi sur la réserve. Et donc, dès qu'eux, ils donnent, c'est formidable. Dès qu'elles reçoivent, c'est formidable. On n'est pas encore sorti de ce truc-là, quoi.
Mais justement, et après, je laisse la parole à Marine qui veut parler, mais par rapport à ce que tu dis là, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'avais noté aussi tout à l'heure, et j'en ai pas encore parlé, mais c'est la rareté. C'est-à-dire que le romantisme, c'est à la fois... pour moi, en tout cas, ma définition du romantisme, les petites attentions du quotidien qui peuvent être assez fréquentes, et ça, c'est chouette. Mais ce qu'on appelle, entre guillemets, les grands gestes, ou en tout cas, les grandes envolées lyriques, les lettres d'amour enflammées, tout ça, en fait, il faut que ce soit rare. Ou en tout cas, que ça n'arrive pas souvent. Et c'est peut-être en ça qu'un mec, quand il ouvre son cœur, comme c'est un peu plus rare qu'une fille, alors là, c'est encore hyper cliché, caricatural ce que je dis, mais en tout cas, dans l'imaginaire qu'on a, un mec qui ouvre son cœur, on se dit, oh, il a ouvert son cœur. Et puis, il va plus le faire pendant 3 mois. Certains mecs. Et là, tu fais, ah ok. Alors qu'une fille, on a l'impression qu'elle peut faire ça tout le temps. Mais ça, c'est hyper caricatural, évidemment. Il y a des filles plus réservées et moins expressives. Marine, t'en penses quoi?
Je suis pas d'accord avec la rareté. Mais peut-être parce que je suis une fille.
Oh, bouh, elle est une fille.
Non, mais je suis pas d'accord avec l'idée de la rareté. Parce que si ça doit arriver... toutes les semaines et qu'après... Moi, je pense qu'il faut pas que ce soit planifié. Il faut que ce soit... C'est une question de ressenti et d'expression de sentiments. Et si ça doit être tous les jours pendant un an, que ce soit tous les jours pendant un an, ça sera la phase la plus romantique de l'histoire. Et puis c'est comme ça. Si l'année d'après, c'est moins romantique, c'est pas grave, ça sera autre chose. Je pense que dans une histoire, il y a plusieurs caractères et qu'il faut aussi l'accepter et valoriser chacun de ces caractères. Donc moi, j'avoue, je suis pas d'accord avec l'idée de rareté.
Mais t'as pas peur, du coup, que ça lasse personne.
Si ça lasse, c'est que soit il n'y a plus d'amour, soit que les papillons sont passés, soit que la relation a pris un autre stade. Je pense qu'il y aura des raisons, mais j'ai pas envie de vivre dans la peur de cette lassitude et donc du coup de me restreindre pendant le moment où je le ressens.
Ouais, t'es totalement romantique. C'est la vision du romantisme. Non, mais j'adore, c'est la vision du romantisme que je donnais en début de podcast qui disait qu'en fait le cœur dépasse la raison.
Ouais, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est on sait pas de quoi. L'avenir est fait, moi j'ai envie de, si je le ressens maintenant, je l'exprime maintenant, et que ce soit accueilli ou non, mais j'ai pas envie de vivre dans cette peur, de me dire il faut que je fasse attention à ce que je donne, parce que peut-être que plus tard, non, là je le ressens, j'ai envie de le donner, je le donne.
Oui, parce que en fait ce que t'as dit tout à l'heure, juste à l'instant, c'était assez juste, dans le sens où la relation peut prendre un autre tournant,
mais bien
donc
sûr.
C'est pas la fin de la relation, la fin du romantisme.
Absolument, et une relation d'amour n'est pas... je pense qu'elle n'est pas constamment romantique, il y a aussi d'autres choses. Dans la vie, on rencontre des problèmes et la relation amoureuse va rencontrer ses problèmes, va rencontrer des problèmes qui lui seront intrinsèques. Donc je pense qu'il ne faut pas réfléchir de manière intellectuelle au romantisme, mais bien le vivre à 100% et à fond, d'où cette idée de rareté et d'où ce terrible constat que vous avez confirmé sur la peur des hommes face au romantisme. Moi, j'en étais très, très peinée. Et surtout que quand je suis romantique, je suis pas forcément amoureuse. Parfois, je suis romantique parce que là, ça me génère des émotions que je vais avoir envie d'exprimer, mais peut-être que j'en suis même pas encore au stade d'amoureuse. D'ailleurs, je mets du temps à tomber amoureuse. Là, la personne avec qui je suis actuellement m'a fait très peur quand il a commencé à parler de sentiments. Il m'a fait très peur quand j'ai vu qu'il avait des gestes amoureux, etc. Ça m'a fait flipper. Donc, nous aussi, on flippe. Parce que j'ai l'impression que dès lors qu'on exprime ses sentiments, ou en tout cas, parce que les sentiments ne peuvent être d'autres sentiments que des sentiments amoureux. Ça peut être des sentiments de « je suis trop contente de ce qui vient de se passer », des sentiments de « je te kiffe, mais sans « je suis amoureuse ». Et donc, exprimer ce type de sentiment-là, c'est tout de suite vouloir emprisonner la personne à qui tu le dis. « Je te l'ai dit, du coup, maintenant, tu m'appartiens ». C'est absolument pas ça. Et un autre point qui est intéressant, c'est que je suis romantique avec mes amis.
Et c'est vrai que Marine, on se connaît depuis quelques temps, et c'est vrai que t'as eu des gestes romantiques envers moi, des déclarations romantiques envers moi, et que j'avais beaucoup de mal à accepter avant. J'ai même mis de la distance pendant quelques temps entre nous à cause de ça. Et t'as refait un geste, enfin une déclaration romantique cet été, parce qu'on s'est revus après 2 ans, peut-être, on s'était pas trop vus.
Ouais.
Ouais, tu m'as fait une déclaration, on a passé une soirée ensemble, et c'était hyper cool. Le lendemain, tu m'as dit, mais en fait... c'est des moments comme ça que je veux avoir, mais avec toi, mais aussi avec d'autres gens, et c'était trop bien, et tu m'as fait me sentir, moi je me suis senti très valorisé après cette soirée-là.
Oh.
Mais surtout, déjà, moi, me valoriser, mais surtout, j'ai été très heureux de t'avoir rendu heureuse le temps d'une soirée.
Mm-hmm.
C'est là où j'ai vu que mon rapport au romantisme avait changé, ou tu vois, même romantisme amical, et qu'aujourd'hui, j'ai envie de te revoir, et que, ouais, on passe des moments trop cool, et qu'on se le déclare, et que des fois, ça soit un peu enflammé, mais que je sais aussi ma limite de dire, bon, là, je peux pas recevoir ta déclaration, ou tu vois, mais ce qui fait la différence, c'est que maintenant j'ai appris ma limite et que j'ai plus besoin d'aller me cacher pour esquiver des trucs. Je peux juste dire je ne suis pas disponible mais j'entends ce que tu dis, mais je l'entendrai encore mieux peut-être dans 2-3 semaines, et revoyons-nous quand je suis moins fatigué, moins énervé, moins je sais pas quoi.
Mais c'est là où je pense que tu as mis le doigt sur la clé, c'est de ne pas esquiver et juste d'exprimer. Et moi j'ai toujours été très très frustrée qu'on n'exprime pas, et je parle pas forcément de toi quand je pense à ça, mais très souvent j'aurais préféré qu'on me dise je vois ton message là et je sais pas comment l'accueillir, ou je suis pas là-dedans, mais qu'on m'exprime. Et parce que je pense à 100% des cas, j'aurais bien réagi en disant oui, j'avoue, là je me suis un peu laissée aller, mais très bien. Enfin, je pense que j'aurais bien...
Je me suis un peu chié dessus. Pardon. C'était la blague de trop, je suis confus.
Non, mais voilà, tout ça pour dire qu'au lieu d'esquiver, je pense qu'à 100% des cas, j'aurais été capable d'entendre un « non, là, c'est trop pour moi ». Ok. Enfin, si je kiffe la personne et que je kiffe les moments, et que je suis ok pour diminuer, oui, juste dites-le moi. je vais pas me mettre à pleurer et à dire boule, mais le méchant garçon, il a été vilain avec moi.
Mais c'est les non-dits qui flinguent la tête en vrai. Pour moi, c'est ça qui me tue. Et ce qui est dingue, parce que j'en faisais beaucoup. Donc bon. Je dois noter quelque chose, Yvo.
Non, mais en fait, vous parliez en fait de la réception ou de la réceptivité, enfin du moment où toi, t'étais pas très ouvert à ça. Et effectivement, par rapport au romantisme, j'ai eu l'impression dans mes expériences que parfois, je faisais des gestes romantiques qui auraient pu plaire, ou vraiment très plaire, enfin beaucoup plaire à la personne, et en fait, ça lui a pas plu parce qu'elle était pas dans le mood. Et c'est important aussi, on pense à soi, hein, mais on pense aussi à l'autre, et essayer de trouver quand même un moment... où c'est opportun. Voilà, on a tous nos problèmes, on a tous... voilà. Parfois, les gens, ils sont pas ouverts à ça. Ils sont en colère, ils sont tristes et tout, et ils sont pas ouverts à recevoir des fleurs, recevoir une déclaration d'amour et tout. Donc, ouais, je pense que le temps est... le timing est important, quoi.
Et on retombe sur le fait de ne pas offrir pour soi, mais pour l'autre. C'est vrai que ça peut être frustrant si tu offres un beau bouquet en disant ça va faire plaisir et que c'est pas réceptionné comme ça, que la personne réagisse pas comme tu t'y attendais. Mais la clé, elle est là, c'est qu'en fait, si tu donnes, et t'attends pas à ce qui tu vas être retourné, comme si c'est pas un investissement, en fait, le geste que tu fais. Ce que j'ai longtemps cru, moi, c'est genre, on disait au début, en fait, je vais donner, comme ça, elle sera obligée de m'aimer. Non. Ça, c'est, ça s'appelle une dictature.
Je pense que les deux ne peuvent pas vivre que collés. Enfin, je pense qu'on peut aussi avoir des moments où on s'est fait plaisir plus à soi qu'à l'autre, c'est pas grave. Il y aura des moments où cette personne va le faire aussi, et des moments où on va réussir à corréler les deux, et des moments où on va faire seulement plaisir à l'autre. Je pense qu'il faut pas diaboliser l'un ou l'autre, ou diaboliser l'idée que s'il y a pas les deux, ça marche pas. Non, je pense qu'on peut être un peu plus zen sur ces idées-là, et faire plaisir à soi ou à l'autre. Il y a l'idée de faire plaisir dans tous les cas, et je pense que c'est hyper important, surtout en amour et en romantisme.
Et après, si je te rejoins dans le sens où si ça fait pas plaisir à l'autre, on est toujours un peu déçu, et en même temps, ça ne peut pas... en fait, il y a une différence entre ne pas avoir eu de plaisir à recevoir un geste romantique que l'autre a fait et avoir détesté. En général, quand on le fait avec le cœur, tout à l'heure je disais d'assumer son geste romantique, si c'est pas le bon timing, la personne va pas nous détester. Elle va juste pas être aussi contente qu'on le pensait, mais ça reste un très beau geste. C'est pas grave, en fait, t'as
puis
raison.
Les flops, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Tant que... Faut juste éviter à chaque fois les véhémences et les violences verbales ou le fait de se fâcher contre l'autre. Faut lâcher tout ça. Et si on se trompe, on se trompe. Et parfois même, on se trompe et ça devient mignon. Parfois, ça peut même devenir drôle. Ça peut venir renforcer la complicité, renforcer d'autres choses que cette idée de faire plaisir. Parce que comme on le disait tout à l'heure, dans une histoire d'amour, il n'y a pas que le romantisme. Et si là, on a essayé un geste romantique... qui n'a pas réussi dans l'axe romantique, c'est pas grave, il a probablement apporté autre chose à la relation.
Oui, moi, il m'est arrivé de... Parce que j'adore les petites phrases sur Cornichon et tout, je fais un peu ma pub, mais... c'est que parfois, j'ai des petites phrases romantiques que j'ai pas forcément partagées, j'en ai chez moi, voilà. Et je les sors. Je les sors pas d'une manière réfléchie. « Ah, aujourd'hui, je vais le sortir à un tel. » C'est pas ça. C'est que je suis avec quelqu'un en ce moment, je vois un garçon, et il m'arrive de sortir des phrases, parce que dans le moment, c'est la phrase qui me vient, parce que je l'ai écrite il y a quelques semaines. Elle me revient parce qu'elle est corrélé avec le moment qu'on vit. Et en fait, c'est vrai que ça peut renforcer la complicité parce que la personne en face, donc le mec que je vois en ce moment, il est pas très ouvert à ça. Et donc, quand je dis, il faut... C'était quoi que j'avais dit? J'avais dit, il faut de toi pour faire mon monde. Il a explosé de rire. Il m'a dit, c'est dégueulasse ton truc. Genre, c'est gentil, mais enfin, c'est un peu kitsch, quoi. Et en fait, moi, je le dis avec cœur. Je le pensais vraiment. Enfin, voilà. Et le mec, il a rigolé, j'ai rigolé, j'ai dit ouais, c'est peut-être un peu too much. Et voilà, c'est pas grave.
Mais
raison,
oui, c'est pas grave.
C'est drôle.
Flopons.
Non, mais c'est vrai, je c'est pense qu'en en amour, il faut pas se restreindre, il faut pas avoir peur de flopper, il faut pas. On y va et on tente.
Parce qu'il y a pas de, ouais, il peut pas y avoir de flop. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton anecdote, Yvo, c'est que je pense que le vrai romantisme, il est venu dans la deuxième phase où vous mariez tous les deux, quoi. Vous mariez. Voilà.
On va se marier. Ah, bah, écoute, tu me la prends. Merde, j'aurais peut-être pas dû, du coup.
Où vous mariez.
On va y arriver.
Bah ouais, c'est ça.
Oui. Mariez.
Mariez avec deux R, ok. Pas avec un R.
Voilà.
Et quand vous parliez de donner, et des fois il faut se faire plaisir en donnant aussi, et que c'est, voilà, j'ai eu une métaphore sexuelle, je me suis dit, on peut pas tout le temps être en 6-9. Et ça fait une transition parfaite pour peut-être conclure sur ce thème du romantisme. On oppose, et je comprends pas pourquoi, romantisme et cul. Et Moi, je trouve que il y a des moments très romantiques dans l'amour et pas dans l'amour genre t'as une musique, t'as des bougies, on bouge lentement. Non, un bon déglingage des fois, c'est hyper romantique.
Mais d'où le symbole?
Ah bon, mais alors explique-moi du coup.
Le moment de quand tu lâches vraiment, tu vois, genre on se lâche complètement, on sait pas dans quel sens on store pour se provoquer du plaisir et tu vois, de aussi c'est arrivé à une partenaire, on a fait l'amour vraiment fort et c'est pas obligé d'être violent, mais c'était très intense et à la fin elle a pleuré. Pas parce qu'elle avait mal,
parce qu'elle avait rien senti.
Et était là, bah, il va falloir que je le quitte. Il a tout donné, le pauvre, et moi j'ai lu le journal, il l'a pas vu. Non, mais parce qu'elle était émue de ce qui venait de se passer. Et donc, en fait, sur le moment, tu vois pas à quel point c'est romantique de la manière dont on se donne, mais le fait de l'avoir pleuré, je me suis dit, bah ouais, en fait, on a vécu un truc hyper romantique, même si c'était hyper intense sexuellement. Donc, je sais pas si vous arrivez à faire un lien romantisme et écu, ou au contraire, ça ne marche pas du tout pour vous.
Au début du podcast, j'expliquais qu'il y a la déraison dans le romantisme, comme moi je le voyais. Et donc, ce truc de sexe, je comprends en fait ce que tu viens de dire. C'est le côté non cérébral, le côté on y va pleinement, on s'en fout de la raison, on se plaque contre un mur, on va se faire mal, on va peut-être se griffer, on va peut-être... voilà, évidemment, sans devenir trop violent. Mais je veux dire, ce truc de ne pas réfléchir, ne pas schématiser, ne pas penser, juste y aller avec le cœur, et avec autre chose que le cœur, mais avec son corps, et sans se poser de questions. Donc en ça, c'est très romantique, parce que c'est déraisonné, c'est passionnel, quoi.
Ouais, et dans le côté non cérébral, je pense qu'il n'y a pas de stratégie. C'est ça qui change la donne.
Moi, j'ai une anecdote qui vient de me revenir, effectivement, sur le côté romantisme dans le sexe. C'est que pour moi, le romantisme, ça peut être ce que tu as dit, Flo, le côté hyper non cérébral et presque brutal, voilà, juste d'expression de ses sentiments et de ses désirs sexuels. Mais il y a pas longtemps, j'ai mis donc sur Cornichon une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années avec un mec. Ça faisait quelques années qu'on était ensemble, donc je connaissais très bien son corps, il me connaissait très bien. Et un jour, je l'embrasse dans la nuque. Et ça part de là, c'est-à-dire que je l'embrasse sur la bouche, je l'embrasse dans la nuque, le cou, je lui embrasse l'oreille. En fait, ça a peut-être duré une heure. Une heure, et à la fin, il a joui. C'est-à-dire qu'en fait, sans toucher son pénis et sans que je touche son pénis, il a joui, ce qui était complètement fou, parce que même lui en était étonné, parce qu'on ne savait pas que c'était possible. Et en fait, ça, c'était très, très, très romantique, parce que je me suis dévoué, je me suis donné, ça me faisait plaisir aussi, évidemment, mais je me suis donné pendant une heure à essayer de trouver ses points sensibles, à essayer de lui faire plaisir. Bon, il a joui, donc tant mieux. Et du coup, après, on s'est dit « je t'aime », et c'était formidable, parce que c'était genre « ça aussi, c'est du sexe, et c'est aussi du romantisme dans le sexe ». C'est le temps de prendre, le temps qu'on prend dans nos emplois du temps hyper chargés, où on met de côté, en fait, nos problèmes pour se concentrer sur la personne, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'on aime, et sur ses désirs. Moi, je trouve ça très beau. Ça me donne très envie de recommencer.
Allez, faisons l'amour.
Allez, go, go.
Partout à mal. Il n'y a plus rien. Le temps qu'on prend à prendre l'autre. Voilà, je te le donne si tu peux.
Ah, c'est joli.
Ouais,
bah,
écoute,
en vrai,
c'est cadeau.
Mais non, mais non.
Mais si, et tu m'es mise à mal par contre. Dédicace.
Ah, oui.
Et voilà,
non, non,
moi
non,
j'y
non.
gagne milliards de followers. C'est un échange. Super. Merci beaucoup. Alors, je vais le dire, j'ai vraiment appris des choses sur mon fonctionnement en discutant avec vous. Voilà. Et j'ai des choses à partager à d'autres gens après cette discussion. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ça m'a fait du bien aussi d'en discuter. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez un mot pour qualifier votre rapport au romantisme? Et je vais commencer.
Non, je veux trouver le bon mot.
Moi
c'est-à-dire,
aussi.
En fait, le bon mot par rapport à moi, hein, pas une définition générique. Je veux le bon mot où je me dis pas en sortant, ah merde, j'aurais pas dû dire celui-là. Donc ça va prendre 30 secondes.
Le mot qui me vient à l'esprit, c'est corporel. Pourquoi? C'est qu'en discutant, j'ai remarqué que j'étais du coup très cérébral et tout ça, mais que les moments où j'ai exprimé mon amour de manière romantique, elle était spontanée. Et spontanée, c'est corporel. C'est vraiment écouter une émotion qui vient forcément du corps, qui vient forcément d'un endroit d'amour, quoi. Et donc, du coup, c'est un peu bizarre comme raccourci de dire romantisme égale corporel, c'est pas sexuel, hein, c'est vraiment corporel, c'est être plus à l'écoute de mon émotion, de la spontanéité et du coup de vraiment offrir qui je suis au moment où je l'offre, quoi.
Ben moi je dirais moi, pas le moi de l'année, hein, le moi MOI, et pas parce que je suis égocentrique, mais parce que on revient à cette idée d'expression et que le moi peut se donner, le moi peut donner. Donc, c'est pas un moi auto-centré, mais c'est du moi que tout part.
Trop bien.
Bah du coup moi je dirais toi.
Oh non, et nous et tous ceux qui nous. Putain, je détestais cette chanson.
Moi aussi j'en pouvais plus.
Ah, ouais, c'était ma chanson avec mon amoureux.
Plus toi, plus moi, plus. En plus je pensais que ça parlait une part tous au début. Enfin...
Ah oui
non, j'avais rien compris. Non bah du coup je dirais toi pour en résonance à ce qu'a dit Marine, dans le sens où je trouvais pas de mots, et en fait quand elle a dit moi j'ai tout de suite pensé à toi, parce que effectivement tout ce que t'as dit sur le moi c'est vrai, et pour qu'il y ait toi il faut que bah il y ait un autre en face pour qu'il y ait romantisme, en tout cas même si on peut être romantique avec soi-même, voilà, dans un couple. Et donc le toi c'est effectivement l'idée que ce qu'on fait c'est pour l'autre, pour lui faire plaisir, pour se faire plaisir, on l'a déjà dit plusieurs fois, et aussi pour le séduire, parce qu'on peut aussi séduire avec le romantisme, pour essayer de le garder aussi, même si là, du coup, on tombe dans un truc très stratégique, mais en tout cas, ça peut permettre de le garder, ou de la garder. Et en fait, voilà, c'est ce rapport entre le moi, le toi, et tous ceux qui le veulent.
C'est encore un rapport à la connexion, et pour être connecté à l'autre, il faut essayer de connecter à soi. Donc,
et l'expression.
Et tout est logique. Et l'expression, du coup, nos trois mots résonnent ensemble. Est-ce que c'est pas beau ce qui vient de se passer? En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet. J'ai été ravi d'échanger avec vous.
Moi aussi, j'ai appris plein de choses. Et d'ailleurs, merci Marine, parce que tout à l'heure, on a eu une discussion sur le côté rareté, sur le côté de ne pas se priver de montrer des gestes romantiques si on en ressent le besoin. Et c'est vrai que je me prive beaucoup. Donc là, cette discussion me donne envie d'y aller et d'essayer, quitte à me planter, quitte à flopper, flopons, quoi.
Mais oui, il faut que ce soit. Merci à vous, j'ai adoré aussi ce moment.
Trop bien. Merci beaucoup. Et chers applaudisseurs, je vous embrasse et je vous applaudis avec le cœur.
Trop mignon, applaudisseurs.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Oh là là, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire et une note sur Apple Podcast et aussi sur Spotify où maintenant c'est possible. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et ça soutient énormément le projet. Puisque, je le rappelle, j'ai zéro budget pub, donc c'est vous les ambassadeurs de Mise à Mal. Et maintenant, je vous laisse avec les petits moments off de cet épisode.
D'ailleurs, petite blague, pardon, je fais une micro-parenthèse, mais quand mon frère, il était petit, il pensait que les gens, pour dire « il se marie », il disait « il se marre ». Moi, je trouve que c'est très drôle, parce que c'est...
Mais est-ce que c'est pas ça la clé d'un bon mariage?
Mais tout à fait, Florian.
Les bons mariages font des bons mariages.
Ça n'existe pas, Marachi?
Non, ça n'existe pas. Et quoi, j'ai pas le droit de faire néologiste. C'est vrai. J'ai mon monde, tu vois, il faut de moi pour faire ton monde. Il faut accepte-le.
Oh mon Dieu.
Quoi?
Non, rien.
Hier soir, j'ai mangé. Je crois que j'ai bouffé des cunes. Je fais mon compte. Là, c'est Cornichon qui ressort. Non, je sais même plus ce que j'ai mangé hier soir.
Ah, si, j'ai mangé des gyoza aux légumes et des sushis.
Des deux, fusion.
Ouais, deux fusion.
La cuisine fusion m'angoisse, moi je sais pas pourquoi il y a quelque chose de...
Ah bon?
Dans la cuisine fusion, ouais,
je comprends.
Transpirer. Toi aussi?
Ouais, enfin, quand je vois des pizzas au burger ou des pizzas genre à la bolognaise, rien que ça,
ça m'intrigue.
Ouais.
J'avais vu des pizzas avec des frites dessus un jour.
Ouais. Bah ouais, j'angoisse.
Moi je trouve ça drôle.
Non mais je comprends qu'on ait l'intérêt, tu vois, mais ça me... Je sais pas si t'as vu le film Annihilation.
Si.
Et bah voilà, pour moi ça c'est ça. Okay. C'est un loup qui dit help me, comme ça.
Ah, j'avais oublié cette scène, ça m'a donné
des... Pas un loup, c'est un ours.
Oui.
Pire scène, j'en ai fait des cauchemars.
Ouais, ouais, ouais.
Bref, les balances sont bonnes et mes angoisses aussi.